Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. En ce mardi, c'est Marianne Paquette au micro pour l'émission « C'est bon pour la santé » ensemble pour les 30 prochaines minutes sur Canal M. Eh bien, vous dire qu'il y a des gens qui nous marquent davantage que d'autres, et ce, au détour d'une discussion, d'une entrevue, d'un commentaire. Et c'est le cas de Serge Larrault qui m'a marqué il y a quelques années. C'était lors d'un passage à l'émission « Tout le monde en parle », lui qui était directeur général de l'itinéraire à l'époque et qui m'avait sensibilisé sur la perception que l'on entretient envers les personnes itinérantes et également les préjugés que l'on entretient, parce que, oui, il y en a plusieurs parfois. Serge Larrault a quitté son poste depuis 2014, oui, hein, ça serait plus précis ainsi, et ce, après 20 ans de service comme directeur général du magazine L'Itinéraire. Et on apprenait plus tôt, au mois d'avril, qu'il était devenu le premier protecteur des itinérants à Montréal, un poste nommé par le maire Denis Coderre, un poste tout nouveau qui servira à veiller aux droits des sans-abri, à faire entendre leur voix du côté de l'hôtel de ville, mais aussi à tenter d'harmoniser les relations, que ce soit avec le corps policier ou encore avec d'autres professionnels. Il sera avec nous, Serge Larrault, en deuxième partie d'émission. Et puis, si l'on est attentif à ce qui se passe un petit peu autour de nous, si l'on observe, il y a dans notre société ici au Québec depuis quelques années deux tendances très, très fortes qui se distinguent. Donc, d'une part, l'accroissement de l'offre technologique, également toute l'évolution là, qui a rapport aux outils technologiques, mais aussi le vieillissement de la population qui nous semble quasi inévitable. Donc, d'une part, cette technologie qui nous est devenue indispensable, extrêmement utile, qui a changé notre mode de vie, mais en même temps, qui peut créer certains écarts générationnels parce que être en contact avec ces outils-là, hein, qui sont sans cesse en mouvement, sans cesse en train de s'améliorer, ben, ça peut devenir un petit peu déstabilisant pour des personnes qui ne sont pas nées avec des tablettes ou avec des téléphones intelligents entre les mains. Ça prend du temps à apprendre comment ça fonctionne, ces bébelles-là. Et ben, peut-être que parfois, ça peut aller un petit peu trop vite. Donc, est-ce que ça aide les personnes âgées? Est-ce que ça nuit? On va tenter de se dépatouiller dans tout ça en posant ces différentes questions à Dr. Nathalie Bière. Elle est ergothérapeute, chercheure au Centre de recherche de l'IUGM et également professeure agrégée à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Nathalie Bière, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Je pense que ça serait de passer à côté de bien des choses, de se dire d'entrée de jeu, bah, la technologie, ça n'intéresse pas les personnes plus âgées. On le voit, on peut l'observer, que ce soit de la part de nos parents, de nos grands-parents. Ils sont intéressés, ils sont curieux à savoir comment ça fonctionne. Peut-être pas toujours habile, ça prend de la patience parfois à leur montrer, mais peut-être que leur perception est différente. C'est quoi la perception des personnes plus âgées envers la technologie?
Je trouve ça difficile de répondre à la question « la perception des personnes âgées » parce que je pense que comme pour vous et moi, on ne peut pas mettre toutes les personnes âgées dans la même catégorie.
Ouais.
Donc, ça varie d'une personne âgée à l'autre. En fait, cette perception-là de ce qu'on sait chez les personnes âgées, c'est qu'elle est assez complexe. Elle dépend d'un ensemble de facteurs. Elle va dépendre premièrement de est-ce qu'elle voit que la technologie peut avoir une utilité? Est-ce qu'elle pense qu'elle peut avoir un bienfait pour eux? Elle dépend de la perception de leur entourage. Est-ce que mes proches considèrent que cette technologie-là peut être intéressante pour moi? Ça dépend aussi de leur perception de la complexité de cette technologie-là, etc. Donc, en fait, on ne peut pas dire que toutes les personnes âgées sont nécessairement perçoivent l'utilité de façon égale parce qu'elle dépend de tous ces éléments-là. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que les personnes âgées les adoptent de plus en plus. Donc, elles doivent certainement en percevoir une certaine utilité. Et les dernières, données là, que j'ai pu consulter nous disent qu'il y a au moins 6 personnes âgées sur 10 qui s'intéressent aux technologies et qui les utilisent. Et c'est en fait surtout les personnes âgées un peu plus jeunes, celles qui sont un peu plus éduquées et celles qui ont moins de problèmes de santé, je dirais, graves.
Et en même temps, j'imagine celles qui ont dans leur entourage des enfants, des petits-enfants qui fonctionnent avec ces outils-là parce qu'on a envie de rester en contact avec nos proches et on sait que les technologies peuvent servir à ça.
Mais c'est vrai que le fait d'être exposé à ça, de pouvoir les expérimenter, nous amène davantage de connaissances sur cette technologie-là et ça nous permet d'en voir davantage les bienfaits ou les avantages. Donc, effectivement, le fait d'avoir un environnement, comme je le disais tantôt, qui considère la technologie comme étant utile et qui nous expose à ça, nous permet, nous aussi, d'en voir l'utilité davantage.
Mm-hmm. Je le disais tout à l'heure, on veut observer, oui, les bons côtés, les mauvais côtés de la technologie. Avez-vous l'impression, vous, de par vos observations, de vos études, que ça peut créer, les technologies, une espèce de gap générationnel?
Un gap générationnel. Encore là, je dirais, ça dépend pour quelle personne âgée, je dirais de la génération des 65 ans et plus. En fait, moi, je remarque effectivement celles qui sont plus jeunes, comme je le disais tantôt, qui sont plus éduquées, sont quand même assez à la page. En fait, ils les ont peut-être adoptées plus tardivement que nous, mais ils les ont adoptées et ils les utilisent de façon très variée. Donc, pour rester connectés, pour avoir des activités de loisirs, pour avoir des habitudes de vie plus saines. Et donc, je pense que ce gap générationnel dépend de qui dans notre groupe de personnes âgées actuelles.
Là, on parle des technologies aujourd'hui. On s'entend sur, bon, les outils, téléphones intelligents, tablettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait préciser pour les gens qui nous écoutent? Lorsqu'on parle de technologie, on parle de quoi?
Bien, en fait, c'est une bonne question parce que c'est une définition qui change, hein? Parce qu'on peut mettre, en fait, on pourrait même parler qu'est-ce que c'est les nouvelles technologies, parce qu'on parle beaucoup de nouvelles technologies. Mais par définition, ce qui est nouveau est comparé avec ce qui est plus ancien. Et en technologie, ça évolue tellement rapidement qu'en fait, les définitions évoluent. Mais je dirais qu'actuellement, celle que moi, je préfère le plus, c'est celle qui considère les nouvelles technologies comme étant celles qui sont connectées à nous ou à notre environnement dans l'objectif d'améliorer notre qualité de vie.
Mm-hmm.
Donc, des technologies qui interagissent, qui collectent de l'information, qui les enregistrent et qui les envoient à l'extérieur, toujours dans l'objectif d'améliorer notre fonctionnement.
Et on a l'impression qu'il y a plusieurs boîtes en ce moment qui s'intéressent à améliorer notre santé, notre qualité de vie, à changer nos habitudes de vie. On peut penser à des applications qu'on dit santé. Il y en a de plus en plus sur le marché. Ça, est-ce que ça peut intéresser ou outiller les personnes âgées?
Absolument. En fait, il faut quand même savoir qu'on n'a pas de preuves scientifiques que ces applications-là, ou même que n'importe quel petit bidule électronique permet vraiment d'améliorer la santé ou même le maintien à domicile. Par contre, c'est certain que ça peut améliorer, oui, notre qualité de vie ou en tout cas certainement rendre notre vie plus facile sur certains aspects. Il y a des applications qui vont nous permettre de rester actifs, des podomètres pour calculer le nombre de pas qu'on fait par jour, des applications pour mieux manger, pour mieux suivre notre tension artérielle ou notre prise de médicaments. Donc oui, je pense qu'il y a un beau potentiel, en tout cas, de ces applications-là pour certainement améliorer notre vie tous les jours.
Donc, améliorer le quotidien, il y a aussi des personnes âgées qui pourraient s'en servir pour améliorer ou conserver leur autonomie.
Oui, absolument, parce que l'autonomie, elle est dépendante aussi de notre état de santé physique et cognitif. Donc, le bien vieillir, c'est se garder actif, avoir des bonnes habitudes de vie, et tout ça va mener à un meilleur maintien à domicile.
Oui. Lorsqu'on parle de gestion du quotidien, quelle technologie pourrait aider une personne âgée, par exemple?
Encore ici, ça dépend des besoins. Si je vous en nomme quelques-uns qui me semblent rapidement comme ça intéressants, on peut penser, entre autres, à faire son épicerie via Internet si on a des difficultés de mobilité pour nous permettre d'avoir de l'énergie pour faire autre chose. Des petits appareils électroniques sont programmables, des appareils électriques surtout, qu'on peut couper et, pour éviter, par exemple, les risques de feu ou d'incendie avec ces petits appareils-là. Des serrures de porte que l'on peut débarrer à distance avec notre téléphone, un robot pour faire notre ménage, particulièrement le passer l'aspirateur, le iRobot. Donc, c'est tous des petits trucs, des petits appareils qui, tout mis ensemble, dans le fond, peuvent améliorer des petits aspects de notre vie de tous les jours.
Mais c'est fou, Nathalie Bière, parce que juste faire l'épicerie sur le web ou magasiner sur le web, c'est quelque chose, bon, je n'avais pas pensé, mais à quel point ça pourrait aider une personne qui, bon, a peut-être pas une mobilité à son plus haut niveau ou encore, bon, l'hiver, on le sait, ça peut être plus complexe de sortir pour une personne plus âgée. Donc oui, ça peut non seulement faciliter l'autonomie, mais garder le maintien à domicile, ce qui peut être assez précieux pour une personne âgée et son entourage.
Absolument. Je dirais que l'enjeu est peut-être, par contre, d'aider les personnes âgées à mieux connaître ces petits outils qui s'offrent à eux, ouais, et aussi à savoir comment se les approprier. Donc, je pense qu'il y a aussi un besoin de mieux ou de supporter, entre autres, certains organismes actuels, comme je pense à la FADOC, qui déjà essaie d'aider les personnes âgées à avoir davantage de connaissances sur les technologies et comment se les approprier en lien avec leurs propres capacités d'apprentissage. Ouais. Hein?
Mais c'est un point très important. C'est le rôle de qui de favoriser l'apprentissage des technologies pour les personnes âgées? Est-ce que c'est les enfants, les petits-enfants qui doivent le faire? Est-ce que c'est le milieu? Comment on peut faire cette approche-là avec eux pour qu'ils s'ouvrent aux technologies?
Bien, comme on disait tantôt, c'est sûr que l'environnement a un rôle important à jouer. Donc, quand je parle de l'environnement, je parle entre autres des petits-enfants, des enfants et tout ça. Mais souvent, les personnes âgées me disent « Quand mon petit-fils me montre comment utiliser ma tablette, ça va trop vite. Ouais. Je retiens la moitié de ce qu'il me dit. Quand je vais dans les magasins grande surface, j'arrive pas à suivre le rythme. Il y a trop d'informations. On me donne pas assez la chance d'expérimenter. Ça va trop rapidement. » Donc, je pense qu'il y a nécessairement un rôle pour les différentes associations pour personnes âgées, mais aussi pour certains centres, par exemple, comme l'Institut de gériatrie, qui offre déjà des formations pour soutenir, entre autres, l'utilisation de la tablette électronique et qui sait s'adapter aux caractéristiques des personnes âgées.
Oui, parce que c'est un grand défi pour eux d'un point de vue cognitif aussi. Je ne parle pas pour toutes les personnes âgées, mais peut-être pour certaines, d'avoir accès et de saisir le fonctionnement de certains outils technologiques.
Oui, puis des fois, c'est aussi certains concepts qui sont très abstraits, comme l'info nuagique, comprendre ce que c'est, comment ça soutient l'utilisation de nos différents appareils. Donc, il y a à la fois ce besoin d'avoir davantage de connaissances sur la technologie elle-même et aussi, ben, je dirais aussi une connaissance sur sa santé, c'est quoi le bien vieillir et comment on peut supporter ce bien vieillir via la technologie également.
Est-ce que pour certaines personnes qui vivraient avec différents défis, je pense ici à des difficultés cognitives, une perte de mobilité, un handicap, par exemple, ça pourrait être encore plus approprié d'utiliser les nouvelles technologies?
Je ne sais pas si je pourrais dire plus approprié parce que ça dépend de comment on se situe. Si on se situe dans une perspective de promotion de la santé, du bien vieillir, par exemple, on vise plus les personnes âgées qui vieillissent déjà sainement. Si on est plus dans un contexte où on est plus interventionniste, où là, on a des gens qui ont vraiment besoin d'un soutien, elle pourrait effectivement, je crois, en tirer profit. Plus que dans un cadre de promotion, je ne dirais pas nécessairement, certainement différemment, avec des technologies autres qui vont avoir plus un objectif de suivi de l'état de santé, de monitoring de l'état de santé, ou peut-être même un suivi pour intervenir aux besoins.
Oui. Lorsque l'on pense au bien vieillir, au vieillissement, on pense beaucoup à la santé de notre cerveau, comment il peut rester jeune, comment il peut rester en santé. La mémoire, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les personnes plus âgées. Garder mes souvenirs, garder bon, ma mémoire. Est-ce que la technologie peut aider ces personnes à se garder bien en forme là, du côté cognitif?
Bien, tout à fait. En fait, je pense que la technologie permet un ensemble de stratégies. Si elle est utilisée de façon à avoir une vie active, à être active physiquement, à faire des activités de loisirs qui sont stimulantes, à rester connectée sur mes proches, sur ma famille, peut certainement donc contribuer, elle aussi, à garder une bonne santé cognitive.
Et on peut s'en servir aussi comme rappel mémoire. Si parfois,
aussi,
on a des petits oublis,
aussi,
des petits trous de mémoire.
Absolument. Donc, pour nous supporter dans ces petites activités-là qui sont plus difficiles pour qu'on ait de l'énergie pour faire autre chose.
Avez-vous l'impression, Nathalie, qu'il faudrait davantage outiller les centres de santé qui accueillent des personnes âgées, les proches aidants aussi? Parce que des fois, c'est peut-être pas nécessairement la personne âgée directement qui s'en sert ou qui peut le faire, mais plus l'entourage immédiat.
Mais je pense que oui, parce qu'on est déjà face à la situation où on a des personnes âgées qui arrivent dans le bureau de leur médecin avec leur tablette électronique, qui ont fait un suivi de leur tension artérielle. Donc, il y a clairement un changement là, au niveau de l'utilisation des technologies, aussi de la prise en charge de la santé des personnes âgées. Mais je pense qu'il faut aussi outiller les cliniciens, donc les gens dans les services de santé, pour savoir comment supporter la personne âgée et ses proches dans l'utilisation de cette technologie-là aussi.
Oui, oui, oui. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de la maison connectée du futur? Ça sonne comme un titre de film, ça.
Oui, hein, mais ça pourrait être certainement un film de science-fiction, mais on peut penser que dans un futur assez rapproché, on va vouloir avoir une maison qui va être entièrement connectée sur nous, sur nos besoins, sur notre santé aussi, qui va nous suivre partout, qui va s'adapter à nous.
Mettons partir le four, là, avant qu'on arrive.
Par exemple, donc qui va être aussi donc, connecté également sur, sur l'environnement immédiat, l'intérieur de la maison, l'extérieur, et pourquoi pas notre travail et les commerces, nos magasins préférés pour préparer nos commandes d'avance, pourquoi pas, ou même anticiper ce qu'on pourrait souhaiter. Donc, une maison qui nous suit partout d'une certaine façon.
Et ça, ça apparaîtra quand, vous pensez?
Oh là là, j'ai aucune idée, mais je pense que l'industrie travaille très fort là-dessus. Maintenant, est-ce que chacun souhaite vraiment ça pour avoir une meilleure qualité de vie? Là, ça, c'est une autre question.
Pas nécessairement. Au même titre, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a des personnes âgées qui vont aller plus naturellement vers les technologies et d'autres pas.
Absolument.
Bon, après, ça dépend de l'entourage et des intérêts. On parle de tout ça, Nathalie Bière, parce que vous êtes en conférence 19 mai prochain du côté de l'IUG. 14h, une conférence qui s'appelle « Les nouvelles technologies dédiées au bien vieillir ». Quelles sont-elles et sont-elles efficaces? 60 minutes, c'est gratuit, important de le mentionner. Vous allez quels sont les grands thèmes, les grandes lignes?
Bien, on va commencer par démystifier un petit peu les technologies puis aborder des technologies grand public qui sont faciles d'accès et qui peuvent avoir peut-être une influence sur notre qualité de vie de façon immédiate. Mais on va aussi parler des enjeux liés à l'utilisation des technologies pour le bien vieillir. Et on va aborder certaines options ou certaines options futures, oui. Qu'est-ce que le futur nous réserve un petit peu en termes de technologie? Et on va parler aussi des projets de recherche qui se passent parce que c'est très actif ici au Québec en gérant technologie.
Oui, oui, c'est un mot que vous m'avez appris ça tout à l'heure.
Donc, technologie dédiée aux personnes âgées.
Oui. Si l'IUGM offre ce type de conférence parce qu'il y a un intérêt du côté des personnes âgées envers les technologies.
Absolument. Moi, je pense que les personnes âgées, bien encore là, les personnes âgées, je trouve ça difficile, mais il y a un grand pourcentage de personnes âgées qui sont très intéressées, qui veulent en savoir plus et qui veulent savoir comment se les approprier pour mieux vieillir.
Et c'est important, là, je m'adresse aux gens qui sont peut-être hors de l'île de Montréal, plus en région. Si vous n'avez pas accès aux conférences de l'IUGM ou si encore il y en a une que vous voulez revisionner, vous en avez manqué une, on mettra tous les liens sur notre site parce qu'il y a une façon via YouTube d'y avoir accès. On mettra également toutes les adresses nécessaires, là, iugm.qc.ca, avantage, là, pour savoir ce qui se passe du côté de la programmation, qui est toujours extrêmement florissante et intéressante, et du côté des conférences. Nathalie Bière, vous êtes ergothérapeute, chercheure au Centre de recherche de l'IUGM, professeure agrégée à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui.
Merci de m'avoir invitée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter. We'll be right back.
Serge Larreau. Bonjour, bienvenue. Un plaisir de vous avoir ici en studio avec moi. Ça fait à peu près 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Vous avez eu le temps de faire le tour du monde entre-temps. La dernière fois, vous étiez directeur général du magazine L'Itinéraire. Maintenant, premier nouveau protecteur des itinérants nommé par le maire Denis Coderre. Mm-hmm. Une grande responsabilité, ça?
C'est un gros mandat. C'est un très gros mandat que je prends avec beaucoup de sérieux. C'est aussi une opportunité pour moi. Ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille au niveau de l'itinérance. Et j'ai accumulé beaucoup d'informations, pas juste ici au Québec, mais également beaucoup à l'étranger, où j'ai œuvré au sein du Réseau international des journaux de rue. J'ai visité beaucoup de villes, j'ai étudié les plans de villes. Donc, quand ce poste-là a été annoncé, j'ai eu l'impression que c'était vraiment une suite logique de tout ce que j'avais fait avec l'itinéraire. Et c'est un rôle qui va être assez complexe, c'est-à-dire qu'à la fois... Il faut voir comment la ville peut améliorer les services aux personnes de la rue, reconnaître peut-être plus ces gens-là comme des citoyens, et également de voir comment on peut amorcer un changement, amorcer une aide plus intensive, parce qu'elle ne diminue pas l'itinérance. Là. Elle s'accroît constamment. On le voit, c'est visible à Montréal. Il y a aussi avec la modernisation, le développement, parce qu'on ne peut pas être contre ça, mais il n'y a plus de terrain vague à Montréal. Il n'y a plus de ce qu'on appelait, nous, les « no man's land », où les gens allaient là. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur le trottoir. Donc, ils sont encore plus visibles. Je ne vous dirais pas qu'il y a un accroissement aussi important que l'impression qu'on peut avoir. Chose certaine, c'est que les grands itinérants chroniques, les malades mentaux, les grands toxicomanes avec des drogues de plus en plus dures, accèdent de moins en moins aux services. Et là, il faut essayer de changer ça. On a un maire, pour la première fois, qui, depuis longtemps, à ma connaissance, veut réellement, concrètement agir. Il a créé ce poste-là pour l'aider à avancer à ce niveau-là et j'espère être la personne de la situation, effectivement, pour les prochaines années.
Serge, vous avez déjà dit, et je trouve ça tellement juste, que le pire obstacle, peut-être, à l'itinérance, c'était l'indifférence. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un piège, l'indifférence, et également que c'est une tragédie qui n'est pas seulement que personnelle, mais également qui est sociale. Donc, c'est le problème de tout le monde. Mm-hmm. Est-ce que votre nouveau rôle va vous amener à sensibiliser le grand public aussi à ça?
Ça fait partie de mon mandat. Évidemment, on a quand même l'itinéraire qui sensibilise depuis plus de 20 ans la population. Il y a des organisations comme le RAPSIM qui font beaucoup de travail, mais il faut toujours continuer. Il y a l'indifférence. Il y a les gens qui ne la voient pas, qui ne veulent pas voir l'itinérance. Mais il y a également aussi une incapacité d'inclusion et d'intégration à notre société. Et ce n'est pas toujours par mauvaise volonté. Mm-hmm. Tout le réseau de la santé a de la misère à soigner les gens qui n'ont pas de difficultés sociales, qui ont des liens, qui travaillent. Alors, imaginez pour une population qui est sans abri, qui n'est pas capable de respecter ses rendez-vous, qui a de la difficulté à être suivi par un médecin, il faut adapter le système. Et c'est là qu'on doit se poser comme société, effectivement. Il y a une partie de la tragédie qui est de l'individu. On ne contrôle pas les malheurs qui arrivent à une personne, mais elle devient une tragédie sociale quand la société n'est pas en mesure d'offrir des services. On a évolué en tant que société. Je parle beaucoup du concept d'accessibilité universelle qui a été développé. Il y a une politique depuis quelques années à la Ville de Montréal. On l'a compris pour les personnes handicapées physiques. Mm-hmm. On ne le comprend pas pour les personnes malades mentales, ou ce que j'appelle, moi, les handicapés sociaux, que sont les personnes itinérantes. C'est-à-dire qu'il y a parfois de la maladie mentale là-dedans, il y a de la maladie physique, mais il y a aussi une brisure complète du lien social avec les autres qui fait qu'elles n'accèdent pas aux services. Et lorsqu'on a compris et accepté ça, c'est là qu'on peut changer les choses. Dans la définition de handicap par des organismes reconnus comme l'ONU, une personne qui manque une jambe, elle est handicapée si son environnement ne lui permet pas de se déplacer avec juste une jambe. Lorsque l'environnement le favorise, elle n'est plus handicapée, elle est fonctionnelle. Si on pouvait voir la population itinérante sous ce même regard-là, étendre le concept d'accessibilité universelle aux personnes en brisure de lien social, là, je pense qu'on pourrait commencer à penser comme société à guérir un mot qui est un fléau.
Oui. Ce brise social amène aussi des relations interpersonnel plus conflictuel. Et il y a un aspect assez intéressant de ce nouveau mandat comme protecteur des itinérants, c'est d'harmoniser ou de tenter d'harmoniser les relations avec le corps policier, le SPVM, ici à Montréal. Donc, est-ce que ça va s'articuler comme des formations auprès des policiers?
Les policiers ont déjà reçu des formations par des psychiatres spécialisés en itinérance. Il y a tout un travail qui a été fait. Et il faut continuer. Il y a beaucoup de policiers, il y en a des nouveaux à chaque année qui arrivent. Ouais. Donc, il faut s'assurer. On parle beaucoup d'essayer de voir si on ne peut pas changer le programme de formation à la base, offrir plus de cours en sociologie, par exemple. Donc, c'est certain que le service de police peut s'améliorer. Mais en même temps, c'est pas des super-héros, ces gens-là. Puis ouais. Ils peuvent pas devenir des psychologues de la rue puis des intervenants. Donc, à la fois, on peut améliorer notre service de police, mais il faut aussi qu'on améliore notre réponse aux maladies concrètes, aux problèmes sociaux concrets. C'est les deux qu'il faut travailler.
Oui. Ce mandat-là se termine en 2018. Ça laisse 2 ans. C'est pas un petit peu court pour arriver à réaliser tout ça?
Bien, écoutez, j'espère qu'ils ne vont pas abolir mon poste en 2018. Il n'y aura pas de miracles qui vont être faits d'ici ce temps-là. Par contre, on met déjà la table à un plan de travail et je pense qu'on va pouvoir démontrer qu'il y a une capacité de changer les choses. En ce moment, je sens que les gens ont perdu courage, ont perdu l'espoir qu'on puisse régler ce problème-là. Si j'y crois toujours, moi, qu'on peut le régler, mais ça va prendre du temps. Ça ne se réglera pas du jour au lendemain, mais je sens que l'énergie est là. Les gouvernements sont quand même assez présents. Il y a des intervenants incroyables, mais il faut travailler encore plus ensemble qu'on ne l'a jamais fait. Et pas juste le communautaire de son côté qui a porté le fardeau pendant des décennies. Il faut que le réseau de la santé et des services sociaux puisse aussi s'adapter à ça et travailler avec le communautaire. Ça ne sera pas facile, mais on verra dans 3 ans qu'est-ce qu'on aura réussi à faire. Et j'espère non seulement que mon poste va continuer, mais qu'on aura encore plus d'outils à Montréal pour affronter ces besoins-là.
En tout cas, force est de constater que les volontés sont là.
Les volontés.
Ça consistera à quoi ce comité du maire en itinérance?
On est en train de le définir. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, notre maire veut être encore plus solide, donc connaître plus. Comment on peut l'entourer de gens qui vont l'aider à mieux encore comprendre les grands enjeux globaux, développer une vision globale du maire, de l'administration municipale concernant cet immense ensemble et système de besoins qui entourent les personnes itinérantes. Donc, c'est un comité qui va se vouloir consultatif, éclairer notre maire, l'aider à prendre des décisions parce qu'il y a beaucoup de dossiers et il veut se spécialiser au niveau de l'itinérance, c'est évident. Donc, c'est un comité d'appui pour le maire et pour moi aussi, en tant que protecteur, de mettre autour de la table des gens. Est-ce que ce sera toujours les mêmes personnes? On est vraiment en train de définir tout ça, là. Mais la base, c'est ça. Aider notre maire à devenir un professionnel, un spécialiste de l'itinérance dans sa ville.
Parce que, bon, Denis Coderre, on le sait, c'est un maire qui a envie de se distinguer, qui veut être un chef de file. Il y a un petit côté compétitif aussi, mais on ne veut pas être chef de file en itinérance. On ne veut pas que notre ville se démarque de cette façon-là. Hein.
On veut être chef de file dans l'aide aux personnes itinérantes. Ouais. Et il y a des villes dans le monde qui ont performé, qui ont fait des changements. Je pense à Stockholm, C'est sûr, les pays scandinaves sont toujours bien évolués, mais il y a des villes qui se sont améliorées.
Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que l'hôtel de ville, c'est pas très loin du Canalem, Serge Larrault. Donc, on aura la chance de vous croiser un petit peu plus souvent. Un grand plaisir de vous avoir. Et puis, en plus, de vous croiser peut-être dans nos rues en tant que protecteur des itinérants, le tout premier.
Certainement. Merci de m'avoir invité.
Merci, Serge. Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. Et c'est Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous, nous, demain, 14h. Portez-vous bien, puis n'hésitez pas à réagir sur nos médias sociaux, Twitter, Facebook. On aime ça vous entendre et vous écouter. Votre opinion, toujours bien importante. OK. Portez-vous bien. Bye-bye.